Nos vies sont agitées. Les soucis et les fardeaux ne nous épargnent pas. Il nous arrive d'être fatigués. C'est dans ces moments, particulièrement, qu'il est bon de pouvoir s'arrêter pour un temps de culte, pour déposer nos soucis, nos fatigues, nos peines, pour nous laisser accueillir par le Christ vivant. Le Christ nous accueille ce matin. La paix du Père, l'amour du Fils, la consolation de l'Esprit nous sont offerts pour que nous vivions ce culte, le cœur au repos et l'esprit apaisé. Je vous invite à vous lever. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute grandeur et le Père et le Dieu de tout encouragement. Lui qui nous encourage dans toutes nos détresses, afin que par l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de Dieu, nous puissions encourager ceux qui sont dans toutes sortes de détresses. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Nous chantons donc. Louons Dieu avec le psaume 147. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange, il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Seigneur sur la cithare. Et je vous invite à chanter un autre psaume, le 67, le A, que Dieu nous bénisse et nous garde. Ah, je vais pas noter la page. Prenez place. Bienvenue à chacun, chacune d'entre vous pour ce culte ordinaire, enfin. Parce qu'on a eu, Pentecôte, il y a eu confirmation, on a eu culte famille la dernière fois et culte fête de paroisse la semaine prochaine. Hein ? Un culte normal, de temps en temps, ça fait du bien. Bienvenue à chacun, chacune d'entre vous donc, que vous soyez d'ici, occasionnel ou régulier, ou que vous veniez de loin. Alors, je ne sais pas si j'en ai repéré, s'il y en a d'autres, mais j'ai repéré deux personnes du Brésil. Bienvenue à elles. Elles nous liront tout à l'heure un extrait, un passage de la Bible, pas de l'Évangile en l'occurrence, en portugais. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes de passage? Ah, qu'est-ce que... Ah oui, madame, oui, d'accord, mais de moins loin. Mais bienvenue quand même. Je vous invite maintenant à placer nos vies sous le regard de Dieu. Seigneur, tu es un Dieu qui pardonne avec abondance. C'est pourquoi, sans crainte, nous pouvons une fois encore nous tourner vers toi pour te dire tous nos manquements. T'avons-nous réellement cherché là où tu es? Non, nous le confessons, nous t'avons placé ailleurs, là où tu n'étais pas. Pauvre excuse pour ne pas t'avoir trouvé. T'avons-nous sincèrement invoqué? Non, nous le confessons, nos invocations étaient adressées à un Dieu lointain alors que tu étais près de nous. Si près même que nous aurions pu te voir, si nos regards n'avaient pas été occupés à te chercher ailleurs. Dès lors, parce que tes voies ne sont pas les nôtres, parce qu'elles sont amour et compassion, nous osons te dire, pardonne-nous, Seigneur. Amen. Nous restons assis pour chanter tous mes maux, il me guérit. Dans l'Épître aux Romains, nous lisons ceci. « Quand nous étions encore sans force, Christ, au temps fixé, est mort pour les impies. C'est à peine si quelqu'un voudrait mourir pour un juste. Peut-être pour un homme qui est bon, accepterait-on de mourir. » Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Par la mort de Christ, Dieu prouve son amour pour nous. Par la mort de Christ, nous sommes délivrés de nos peurs, de nos fautes, de notre mort. Par la mort de Christ, nous sommes réconciliés. Que son amour, son pardon et sa réconciliation nous relèvent et nous fassent vivre. Amen. Et nous nous levons pour chanter « Ô ma joie et mon espérance ». Voici quelques paroles de Jésus pour orienter nos vies. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même parmi vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en gage pour la multitude. Et voici comment notre Seigneur Jésus-Christ résume toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ton esprit emplis nos êtres. Prenez place. Deux lectures pour aujourd'hui, d'abord dans le livre du Deutéronome, chapitre 8, et ensuite dans la première épître aux Corinthiens. Au petit matin, le soleil est juste une ligne de lumière qui dessine l'horizon. À midi, le soleil éclaire et réchauffe toutes les pièces de la maison. Au couchant, le soleil est une boule rouge qui illumine notre regard. La nuit, le soleil n'est plus, mais il reste présent dans notre mémoire. Le soleil est toujours le même, et pourtant nous le voyons différemment selon les temps de la journée. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est comme le soleil. Le matin, elle souligne l'horizon de ma journée. À midi, elle éclaire mes décisions et mes pensées. Le soir, sa lumière est douce pour dire la paix. La nuit, je garde la mémoire de sa clarté. Au moment où nous ouvrons les pages de l'Écriture, que se pose ta lumière sur notre lecture. Amen.
Alors, je vais vous lire Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 3, et ensuite versets 14b à 16a. Est-ce que vous m'entendez ?
Okay.
Moïse disait au peuple d'Israël : Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposée pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi, ni tes pères n'aviez connue. Pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Le deuxième. Alors, je lis 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 16 à 17. « Frères, La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain.
Bonjour à tous. Je vais répéter, mais maintenant en português. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Esse.
Pu reconnaître un ou deux mots quand même. Je vous invite à chanter « Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur ». Prenez place. Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps. Un seul pain. Suis-je le seul à m'être dit, en entendant ces quelques mots de l'apôtre Paul, c'est quelques mots que l'apôtre Paul n'avait jamais dû mettre les pieds dans une boulangerie française. Bon, ça c'est historiquement assez certain, parce que les pains, il y en a toutes sortes, à base de diverses céréales, de multiples formes, de qualités variables, de goûts différents. Et cela déjà à l'époque de l'apôtre. Bon, il n'avait peut-être pas toutes ses spécialités, mais il y avait déjà divers pains selon les céréales disponibles, selon la qualité de la farine, des pains pour les riches, des pains pour les pauvres. Bien sûr, je le sais bien, lorsque Paul parle d'un seul pain, il ne parle pas de cela. Il évoque celui qu'on partage lors de la scène. Mais avant d'être partagé lors du repas cérémoniel, le pain a déjà toute une histoire et toute une symbolique derrière lui. Et il ne faudrait pas inverser la chronologie. Pour dire les choses brièvement, avant d'y revenir plus loin, les discours sur le pain ou les récits qui le concernent dans le Premier Testament ne sont pas des préfigurations de la scène. C'est au contraire le dernier repas du Christ qui les récapitule et les transcende. C'est peut-être l'une des différences plus ou moins conscientes et plus ou moins assumées entre une approche protestante et une lecture catholique de ces textes. Encore, il ne faudrait pas trop simplifier, il ne faudrait pas être caricatural. Hier, en fin de journée, j'avais été invité à participer à la répétition d'une cérémonie biconfessionnelle à l'occasion d'un mariage. Oui, c'est long, mais mariage œcuménique, ça n'existe pas comme mot. Bon. Alors j'avoue que je n'ai jamais bien compris le principe même d'une répétition de mariage. Dans ma pratique, j'explique aux mariés ce qui va se passer, je leur dis ce qu'ils auront à faire, je vérifie qu'ils le fassent, et puis je leur laisse découvrir le reste, je leur laisse la surprise de la célébration. Dans le cas d'hier, à l'exception de la prédication qui m'a été dévolue, les futurs mariés savent déjà tout ce qui se passera et quels seront les textes dits la semaine prochaine. D'ailleurs, le prêtre, en plaisantant, comme s'il avait lu dans mes pensées, leur a dit à la fin de la répétition « Bah, c'est pas la peine de revenir la semaine prochaine, on a déjà tout fait. » Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce qu'au moment où le déroulement indiquait la récitation du Notre Père, le prêtre a précisé qu'il introduirait la prière en expliquant la notion de pain. Alors, avec le mauvais esprit que vous me supposez, je me suis dit « Ça y est, on est parti pour un tour sur l'Eucharistie. » Or, comme pour me faire mentir, il n'est pas du tout parti sur le sacrement, mais bien sur les significations matérielles du pain, puis, dans un deuxième temps, il évoqua la dimension spirituelle du pain, sans, ou alors marginalement, expliciter l'Eucharistie. Alors peut-être je me suis dit, c'est parce que j'étais là, il ne voulait pas créer une tension, mais c'est sans doute surévaluer mon importance dans le discours. Et je me suis aussi demandé, est-ce que ce petit discours sur le sens du pain, il le faisait à chaque fois que l'Assemblée devait dire le Notre Père, ce qui rendrait les célébrations un peu surprenantes. Et puis je me suis souvenu que c'était le texte du jour, « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Je pense donc que mon frère et confrère catholique m'avait révélé une partie de sa prédication pour aujourd'hui. Et ça tombe bien, elle rejoignait un peu la mienne. En bon protestant, je suis toujours ravi d'une convergence avec les catholiques et un peu peiné de ne pas m'en différencier davantage. C'est complexe d'être minoritaire et d'aimer ça. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et que sort-il donc de cette bouche de Dieu? Des paroles, évidemment, la parole. Oui, mais répondre cela, c'est juste une jolie pirouette, une belle esquive. Et cela reste bien flou, ce qui est pratique, je vous le concède. La question demeure, de quelle parole l'homme, l'être humain, a-t-il besoin pour vivre? Or, peut-être avez-vous remarqué, mais le texte du Deutéronome est assez surprenant. Puisqu'il nous parle du don de la manne par Dieu, pour affirmer que l'homme ne vivra pas de pain seulement, ce qui peut sembler quand même contradictoire. La manne est donnée au peuple d'Israël pour lui rappeler qu'il ne peut se contenter de pain. Alors il faudrait penser que la manne n'est pas une sorte de pain, comme nous avons toujours tendance à l'imaginer. Vous avez remarquez que l'extrait du Deutéronome que nous venons d'entendre n'est pas le récit du don de la manne. C'est l'interprétation que Moïse fait de cet épisode au soir de sa vie. C'est d'ailleurs tout le contexte littéraire du Deutéronome. À la veille d'entrer dans la terre promise, Moïse, mourant, rappelle tout ce qui s'est vécu et l'interprète lui donne un sens. C'est pour cette raison que d'ailleurs ce livre s'appelle en grec Deutéronome, deuxième loi, une récapitulation, une relecture de ce qui précède. La manne n'est pas un super pain, mais un pain différent, un pain de l'épreuve, un pain du manque. En quoi est-elle pain et en quoi ne l'est-elle pas? Comme je le disais un peu plus tôt, toutes les symboliques sociales, sociétales, culturelles, spirituelles, bibliques et extra-bibliques du pain ne sont pas des préfigurations de la scène, mais bien l'inverse. La scène, l'Eucharistie, est une récapitulation ou une sublimation de toutes ces dimensions préexistantes. Et je ne prétendrai pas être exhaustif quant aux significations du pain. Mais il faut reconnaître que le pain n'est pas n'importe quelle nourriture. Bien sûr, jusqu'à la fin du 19e siècle au moins, le pain constituait en Occident la plus grande part, l'essentiel de la nourriture de nos ancêtres. Pour les classes les plus aisées, évidemment, c'était un peu différent. Le pain a une dimension mystique, fruit de la terre et du travail des humains. C'est un aliment qui nécessite du travail et du savoir-faire, qui relève presque un peu de la magie. Et ce n'est pas à des gens qui habitent ou visitent la France que je vais l'apprendre. Le pain est un aliment qui requiert du savoir-faire, parfois même de la douleur, voire de la souffrance. Oui, bien sûr, pour quelqu'un comme moi qui n'a qu'à traverser la rue pour entrer dans une boulangerie, cela peut paraître un peu factice de dire ça. Mais vous le savez, nous avons tous une boulangerie préférée. Et ce n'est pas forcément celle qui est en bas de chez nous. Parfois, on fait plusieurs kilomètres pour acheter le vrai bon pain. Chacun a sa boulangerie. Le pain a quelque chose de sacré. Il y a une poésie du pain, il y a une mystique du pain. Et si je répugne toujours, j'imagine comme vous, à jeter de la nourriture, mais nous y sommes parfois contraints, jeter du pain est pour moi ce qui est le plus pénible. Même quand il est tout sec et tout moisi, j'ai le sentiment de commettre un sacrilège. Le pain est un symbole de bénédiction et de richesse. Ne pas manquer de pain, gagner son pain, fût-ce à la sueur de son front, est une bénédiction. La manne, en revanche, se reçoit dans le manque, l'épreuve, l'aridité du désert, dans le dénuement. Elle ne nécessite que la peine de se baisser pour la ramasser et l'on n'en manque jamais, quelle que soit la quantité dont on en dispose. Sur ce point-là, elle est l'antipain. Elle est pur don de Dieu. La manne et l'eau, tous deux cadeaux divins, sont deux éléments qui permettent la traversée du désert au milieu des scorpions et des serpents. Dieu est celui qui donne le pain et l'eau. Alors, ce n'est pas tout à fait dans la symbolique de la scène. Le pain passe, mais l'eau, non. Le pain et l'eau, la galette et la cruche, pour ceux qui ont l'histoire d'Élie en tête. Encore un épisode de désert, de sécheresse, tant extérieur qu'intérieur. Il n'y a pas besoin d'avoir une imagination débordante pour voir dans la manne un symbole de la grâce, gratuite, est suffisante, ni trop, ni trop peu. Mais que partage-t-on lors de la scène ? Le pain ou la manne ? Le pain terrestre ou le pain tombé du ciel ? Bien que je ne sois pas normand, je vous répondrai volontiers, ça dépend. Dans l'histoire biblique, le don de la manne cesse lorsque Israël entre dans la terre promise, ce pays de cocagne où coule le lait et le miel. Ce n'est plus le désert et l'aridité. Israël devra alors travailler pour produire sa nourriture. Ainsi, la logique de Dieu est, une fois de plus, inverse de celle du monde. Ici-bas, lorsque nous sommes dans l'abondance, les choses sont sinon données du moins faciles. Et lorsque nous sommes dans le dénuement, la nourriture se fait rare et laborieuse à trouver. Lorsque nous sommes dans le désert matériel, affectif, social ou spirituel, le repas du Seigneur est de la manne. La grâce te donne la force de traverser ce désert vaste et terrifiant, pays de serpents brûlants et de scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. Lorsque tu es riche de bénédictions, le repas est une invitation au travail, à l'effort, à la progression. La grâce de Dieu, dont la scène est l'un des signes, est ce que tu as besoin qu'elle soit, pain ou manne. Don gratuit ou récompense de ta part de travail. J'ai bien dit besoin, pas envie. Je ne sous-entends pas non plus que, selon nos états, nous ne communions pas au même pain. Une part d'entre nous communierait à la manne et l'autre aux fruits de la terre et du travail des humains. Non, nous sommes un seul corps. Lorsque l'un de nous ne va pas bien, tous sont souffrants. Lorsque l'un d'entre nous est dans la joie, nous le sommes tous égaux avec lui. Nous mangeons donc le même pain, à la fois terrestre et céleste, à la fois gratuit et coûteux. Nous sommes un seul corps, dans le nom de celui qui est venu nous rejoindre de notre humanité, en naissant dans une bourgade, Bethléem, dont le nom signifie « maison du pain », et qui a dit « Je suis le pain de vie ». Ainsi, lorsque nous partagerons tout à l'heure le pain et le vin, symbole de la joie, soyons donc solidaires de nos frères et sœurs, soyons donc solidaires dans la joie, aussi bien que dans la peine. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous allons maintenant le chanter. Cantique 1409, 1409, page 220. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Nous restons debout pour dire ensemble le symbole des apôtres, le « Je crois en Dieu ». Alors, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne se trouve pas sur le livret, mais sur la dernière page. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Mon seul abri, c'est toi.
C'est toi, toujours mon cœur chante.
Prenez place. Voici le moment de l'offrande. Nous pouvons, par notre don, manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Aude, si tu veux bien, tant que tu viens, je vais profiter, puisqu'on est début du mois, faire de la pub pour notre journal régional. Donc, réveille, avec un bon dossier, enfin, je suppose bon, parce que celui-là, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais... sur les réseaux sociaux et l'Église. Et il y a peut-être un article qui est susceptible d'intéresser l'une ou l'autre d'entre vous, c'est le bistrot des grands-parents. C'est un projet pour aider les grands-parents à parler de la foi à leurs petits-enfants, parce que parfois, d'une génération à l'autre, il y a eu des frictions ou des difficultés dans la transmission. Donc, moi, donc un petit un article parmi d'autres que donc notre journal régional Réveil, que je vous recommande chaudement. Et puis dans vos prières, je vous recommande aussi notre rédactrice en chef, Nicole Roland-Rupp, qui est en arrêt de travail encore quelques temps. Donc le soutien de vos prières n'est pas superflu.
Alors, pour les annonces, ce soir, nous avons un concert au Temple à 17h30 qui sera donné par l'ensemble vocal d'Aix-les-Bains. Vous avez la petite affiche à l'entrée sur les tables. Mardi aura lieu la prière du matin à 7h. Mardi soir, nous avons la chorale à 19h15. Mercredi, il y aura partage et prière à 19h. 18h. Mercredi, il y aura la soirée amitié judéo-chrétienne à la Puya, qui sera suivie de l'AG et d'un repas partagé. Jeudi se déroulera le conseil paroissial, presbytéral. Vendredi à 20h, alors il y aura une répétition ici au temple de chants, de louanges, Pour l'atelier chant qui se déroulera dimanche prochain, donc dimanche 14, pour la fête de la paroisse, pour ceux qui sont intéressés pour chanter avec le groupe de choristes, vous êtes les bienvenus. Samedi 13, alors il était prévu le groupe Un Parole Partage, mais c'est annulé. On organisera quelque chose plutôt dans l'été. Pour ceux qui veulent participer à cette journée avec ce groupe, vous avez les coordonnées d'Andrea Chemel qui sont sur l'affiche à l'entrée du temple, sur le tableau. Voilà. Donc vous pouvez toujours la contacter pour connaître la date et venir passer la journée avec nous. C'est pendant cette journée qu'on mettra en place le programme pour la nouvelle année. Et puis dimanche, il y aura la fête de la paroisse. Donc vous êtes tous invités à la fête de la paroisse. Alors la fête de la paroisse. Donc le culte sera à 10h. Ce sera un culte en famille, donc le culte en famille de fin d'année. À 11h15, il y aura des activités, voilà, avec différents ateliers, maquillage, balles de jonglage, chasse, jeux de mime, etc. À 11h45, il y aura l'apéritif. L'apéritif qui sera suivi d'un barbecue. Alors, donc tout ce qui est viande, c'est apporté par, offert par la paroisse, c'est ça ?
Oui.
Ou par, voilà. On demande juste aux personnes d'apporter des salades, boissons et desserts. Voilà, donc.
Il y a une participation qui sera demandée pour ceux qui le peuvent, pour ce qui est du repas pour nous. Oui.
Voilà. Il faudrait dire qu'il y a M. Rioufray qui est mort, pour les anciens de la paroisse qui ont connu la famille Rioufray, qui était une famille engagée. Voilà, j'ai vu sur le journal qu'il était blessé.
D'accord. Tout le monde a entendu ou... Alors. Rioufray, c'est ça ? Rioufray. Donc, décès de Monsieur Rioufray. Son prénom, vous l'avez ? Non ? Bon. Voilà. Donc, quelqu'un qui était connu il y a quelque temps ici, voilà. D'accord. Et engagé.
Oui.
Très bien, merci.
Et vendredi 26, il y a la nuit des veilleurs de la CAT à la salle arc-en-ciel rue du Panorama, à Annecy. Voilà. Samedi, il y aura deux mariages, mais je laisse Vincent vous en parler.
Je vais dire les mariages. Tu veux dire quelques mots sur l'amitié juive et chrétienne ? Alors, deux mariages samedi, je crois que c'est la première fois en plus de 25 ans de ministère, j'ai deux mariages la même journée. Pour tous les noms, je vais comme donner les noms. Les présents, je les ai, mais c'est Simon Caldi et Olivia Vincent qui se marieront. En début d'après-midi, à l'église Saint-François de Sales des Italiens. Et un peu plus tard, dans la fin d'après-midi, c'est Martine Bercla et Franck Duvillard-Charvet. Et ça se passera à Messerie. Donc un peu plus loin. Alors le premier couple, c'est assez amusant. Juste une seconde. Parce que les mariages... De confessions différentes, ça m'arrive assez régulièrement. Alors j'ai demandé qui est le protestant, qui est le catholique. En fait, ils sont tous les deux d'un parent catholique et de l'autre un parent protestant. Donc c'est une sorte de double mixte.
Bonjour à celles et à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Quelques précisions concernant la soirée de l'amitié judéo-chrétienne. Donc, 5 points, certains ont été évoqués par Aude. Premier point, très très important, la soirée commencera à 19h45 et non pas à 20h. Deuxième point, la conférence donnée par Patrick Chemla sur les fêtes juives, Moed en hébreu. Troisième, donc l'assemblée générale du groupe. Quatrième, la présentation du programme de l'année à venir. Cinquième, un buffet, un repas canadien. Donc, soirée festive, copieuse, savoureuse.
8 euros.
Comment ?
Toujours 8 euros. Non.
Alors, je ne sais plus si c'est 7 ou 8. Jean-Marc, tu... le tarif ?
L'entrée, c'est 8 euros.
8, voilà.
Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose? Non, je ne dirais pas qu'il se taise à jamais. Hein, c'est pas le... Non? Très bien. Alors, nous allons maintenant partager le pain et le vin. Alors, je parlerai de vin, mais il s'agit de jus de raisin. Chacun, chacune est le bienvenu s'il reconnaît Jésus comme sauveur, Seigneur, quelle que soit son appartenance ecclésiale ou sa non-appartenance, quel que soit son sentiment d'indignité, qu'il lui prenne de la manne ou qu'il ait besoin de pain, il est, elle est le bienvenu. Nous formerons tout à l'heure un cercle et nous ferons circuler le pain et le jus de raisin et chacun prendra au fur et à mesure et consommera au fur et à mesure les espèces. Souvenez-vous, Jésus est à table. Il partage un repas. Un des invités est nourri par les paroles du maître. Il voudrait parler, mais il sent que ses mots sont maladroits. Alors il dit tout simplement ce qu'il ressent. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Alors Jésus raconte une histoire. Un homme prépare un grand repas, il invite beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoie son serviteur pour dire aux invités « Venez maintenant car tout est prêt ». Mais tous s'excusent les uns après les autres. Le premier dit au serviteur « Je viens d'acheter un champ et je dois aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi ». Un autre dit « Je viens d'acheter 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je t'en prie, excuse-moi ». Un autre encore dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir ». Le serviteur revient chez son maître et lui raconte tout. Le maître de la maison dit au serviteur « Va sur les places et dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. Va sur les chemins et le long des haies. Tous ceux que tu rencontreras, fais-les entrer chez moi. De cette façon, ma maison sera pleine. » Aujourd'hui, nous avons ouvert l'Écriture, nous avons entendu une parole. Peut-être cette parole nous a parlé, car elle a prononcé une vérité forte sur nous-mêmes et sur Dieu. Peut-être ne nous a-t-elle pas rejoints, car nous sommes trop encombrés par toutes nos préoccupations et nos soucis. L'histoire nous est racontée comme toutes les histoires que raconte Jésus, celle-ci nous interroge. Quelle sorte d'invité sommes-nous ? Quelles sont les excuses que nous avançons pour ne pas vivre le royaume ? Nos richesses ? Notre travail ? Notre famille ? Oui, oui. Alors la parole devient cinglante. « Si tu ne réponds pas à mon invitation, tu ne mangeras pas de mon repas. » Voilà qu'aujourd'hui, l'invitation nous est encore adressée. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Nous prions. C'est vrai, Seigneur, que nous avons beaucoup de bonnes raisons de ne pas répondre à ton appel. Nous avons tellement de choses à faire, tellement d'occupations, tellement d'agitations. Notre travail, notre argent, nos loisirs, nos soucis, notre famille nous occupent tant qu'il nous reste que peu de temps pour construire notre foi et pour vivre ton royaume. Notre foi est bancale, notre espérance est infirme, notre amour est si pauvre. Mais dans la parabole, Seigneur, ce sont justement les pauvres, les aveugles, les infirmes, les boiteux qui sont invités à ton repas. Car c'est ta grâce qui nous invite. Nous voici. Que ce repas Que par ce repas, ton esprit guérisse notre foi, qu'il ouvre nos yeux et nos oreilles à ta présence et à ta parole, qu'il nous donne de voir dans ce pain et dans ce vin les signes de ta grâce. Que ce repas soit parabole du festin où tu nous invites, où tu nous attends, où tu nous réjouis, où tu nous renouvelles. Amen. Amen. Seigneur Jésus, par ton esprit, cantique 24-13. Laissez maintenant vos richesses, votre travail et votre famille et répondez à l'invitation. Oui, venez maintenant, car tout est prêt. Faire remarquer qu'on avait oublié les remerciements. Alors, merci Mathieu de nous accompagner à l'orgue. Merci Aude, Yvon-Serge et Pierre pour l'accueil.
Et Jean-Michel
pour l'accueil, pardon, excusez-moi Jean-Michel. Et bien, mais merci à vous pour votre participation. Il y a 15 jours, mon collègue était venu, je ne sais pas si vous vous souvenez, et il nous a dit « qu'est-ce qu'on chante bien dans ton église ?» Donc on vous remercie pour la bonne réputation que vous me faites, que nous faites. Allez. Membres d'une même famille, enfants d'un même père, nous pouvons dire avec confiance, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, rompu pour nous et pour tous les peuples. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. sois-tu, car dans ce repas, tu nous as tout donné. Nous sommes pauvres, tu nous as ouvert les trésors de ta grâce. Nous sommes infirmes, tu nous as délivrés de nos impasses. Nous sommes aveugles, tu as ouvert nos yeux à ta présence cachée. Nous sommes boiteux, tu nous as guéris de nos peurs et de nos lâchetés. Nous te rendons grâce. Accorde-nous maintenant de savoir cultiver ce que nous avons reçu dans ton repas. Père, notre vie individuelle et notre vie collective sont tellement encombrées de nous-mêmes que nous en perdons le sens de l'essentiel. Viens toi-même nous délivrer de tout ce qui nous dissuade de faire droit aux priorités de ton royaume. Libère-nous de toute indifférence et de toute ingratitude, pour que nos vies à ta merci soient aussi des vies qui sachent te dire merci. Beaucoup de nos frères et sœurs en humanité doivent aujourd'hui pouvoir compter sur notre prière. Nous te prions pour ceux et celles qui dirigent les peuples et s'inquiètent de la faiblesse de leur propre pouvoir. Et nous te prions pour les sans-pouvoir qu'inquiète la force des puissants. Nous te prions pour les prospères qu'intimide le cri des affamés et pour les affamés qu'exaspère l'enrichissement des prospères. Nous te prions pour les chefs de guerre qui n'arrivent pas à inventer la paix et pour les artisans de paix qui se sentent si impuissants devant la guerre. Nous te prions pour les vivants que hante la perspective de la maladie et de la mort et pour les malades et les mourants en train de découvrir tout le prix et tout le goût de la vie. Nous te prions pour les croyants sans cesse guettés par leur propre incrédulité et pour les incrédules que leur doute peut conduire si près de la foi. Tous ces autres, c'est aussi nous, ô Père. Eux et nous, tous ensemble, avons besoin jour après jour de ton pardon et de ta grâce. Renouvelle-les-nous, renouvelle-les-leur. Installe parmi nous le jeûne de toute autre préoccupation, de telle sorte que le pain de ta présence et de ton amour en Jésus-Christ soit réellement nourriture de nos vies.
Amen.
Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, promets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges de regrets, des regrets d'hier et de l'inquiétude de demain, ta passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être bien-aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit.
Amen. Amen.
Tu nous appelles à t'aimer.
Merci.
Merci.